magie. Vois-tu ce point lumineux sur le rivage? C'est le feu de camp d'Allô la planète. Mettez la chaloupe à la mer. Allons-y. L'émission est présentée par Quentin et Sophie de Fréquence 7.
Salut à tous, voyageuses, voyageurs des quatre coins d'Ardèche, de France et peut-être de la galaxie. Bienvenue à Joyeuse sur cette édition de la Joyeuse Escale. On est en direct donc du festival pour une heure d'émission de radio, une heure de voyage au cœur de ce bel événement. On donnera la parole à celles et à ceux qui font vivre le festival. Malgré les averses, on recueille les témoignages de celles et ceux qui vivent et font vivre le voyage et l'aventure avec un grand A. L'aventure avec un grand A, c'est celle qui commence au coin de la rue, qui nous emmène parfois à la rencontre d'un bout du monde ou d'un autre, et bien souvent qui nous conduit au fond de nous-mêmes, à notre propre rencontre. Je suis Quentin, animateur à Fréquence 7, votre radio libre d'Aubenas, et je suis en compagnie d'Hélène. Salut Hélène!
Salut Quentin.
Alors Hélène est une capteuse de son, elle est descendue directement de Lille pour cette édition du festival. Elle co-anime cette émission avec moi et elle crée chaque jour une sonothèque avec des sons glanés sur l'événement. Salut à Plex également, caché derrière la vitre à l'intérieur de la caravane. Plex qui s'occupe de notre régie. On présentera aujourd'hui l'association Départ, c'est nos deux premiers invités du plateau. Ensuite, on reçoit les ados de la Réverb, la radio des jeunes, ils sont là, Riri, Fifi, Loulou. Voilà, c'est une radio portée par le centre social du Ricochet, Valgorge, Baume-Droby, Joyeuse. Ils viennent nous parler de leur travail de journaliste, puisque eux aussi récoltent des sons, des témoignages de bénévoles depuis le début de ce festival. Et ensuite, Hélène nous présentera sa sonothèque.
Et oui, il ne faut pas l'oublier. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous écouterons le récit de voyage d'Elisa, partie seule à la découverte du Népal et aussi partie à la découverte d'elle-même, hors de sa zone de confort, à la rencontre de ses propres limites. Ce qui nous conduira au récit de Vincent Larove, de Thomas Jarret et de Fabien Hilla, qui sont trois compères aux histoires incroyables qui prouvent encore une fois que l'impossible mérite d'être tenté, franchi et même déplacé.
Et oui, exactement, une émission riche en rencontres et en péripéties, ça commence maintenant. Moi, je vous propose de commencer cette émission par un poème. Alors, c'est un classique, on ne va pas le lire en entier, c'est un poème qui s'appelle « Le voyage » et on le doit à, vous savez, vous. Le voyage, poème classique français.
Un poème de qui? Petite... Ah, j'entends! J'ai entendu une bonne réponse.
Baudelaire,
Charles évidemment. Baudelaire. Bravo. Pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir, que le monde est petit. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancunes et de désirs amers. Et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. C'était la première strophe.
On se garde le reste du poème pour la fin d'émission, si on trouve le temps de le lire. Sinon, bah, écoutez, n'hésitez pas, parce que c'est une belle ode de voyage à l'aventure. Je vous propose d'accueillir nos premiers invités. Je suis en compagnie de Dina. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Dina, tu nous entends?
Oui, je vous entends.
Okay, nous aussi, ça y est, on t'entend maintenant. Et de Eric, numéro 4. Bonjour.
Bonjour.
Alors Dina et Eric, on se regarde du coin de l'œil depuis ce matin. Vous avez un stand posé là, un petit Barnum. L'association s'appelle Départ, et moi je suis venu vous voir avec une question sacrilège ce matin. Je suis arrivé, je dis, vous êtes une agence de voyage? Et en fait, c'est pas ça.
Non.
Alors éclairez-nous un petit peu, parce qu'on a envie de savoir ce qui fait la différence, et puis ce que vous pouvez nous raconter.
Oui, alors du coup, nous, on est une association de voyage solidaire, Et en fait, on organise des voyages dans des pays plutôt en développement. Et l'idée, en fait, c'est de faire un voyage vraiment en rencontre avec la population locale. Et donc plutôt dans des communautés rurales. Et donc prendre le temps, en fait, de partager du coup le quotidien de ces familles. C'est souvent des séjours chez l'habitant. Et donc des voyages aussi qui sont plus respectueux de l'environnement. Et en fait, le principe, c'est vraiment de participer au développement local de la commune dans laquelle on est. Et donc par le voyage, enfin le fait que les touristes en fait viennent dans ces villages-là, ça permet en fait de créer une activité économique soit supplémentaire du coup pour ces personnes-là, soit si c'est leur principale activité, c'est vraiment une activité économique qui leur permet de vivre longtemps sur l'année, en fait. Enfin, un séjour d'une semaine, enfin non, on ne propose pas des séjours d'une semaine, mais par exemple un séjour de 2 semaines, ça peut vraiment permettre à une famille de vivre toute l'année. Donc la principale idée, c'est vraiment ça, c'est participer à leur développement économique par le tourisme. Et aussi, le voyage, en fait, on prend 10% en fait, du prix du voyage pour financer un projet solidaire après sur place. Donc les projets solidaires, ça va être plutôt des projets en lien avec l'agriculture, en lien avec l'autonomisation des femmes, etc. Ok. Et donc, c'est plutôt des voyages en petits groupes. Donc ça va être des groupes de 8 personnes, de 10 personnes, etc. Et en fait, c'est vraiment une alternative au tourisme de masse. Et c'est pour ça que quand vous disiez agence de voyage, on voyait tout de suite quelque chose comme, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut citer comme grosse agence de voyage Fram. Comme Fram, par exemple. Et ce n'est pas du tout pour les descendre ou quoi que ce soit, mais on ne propose pas vraiment la même chose. Nous, on est vraiment sur le côté solidaire et le côté échange, en fait, avec les populations locales. Et donc, c'est aussi de la sensibilisation internationale, en fait.
La
solidarité internationale, pardon.
Oui, c'est ça. ça se déroule comment, du coup? Vous avez une liste de villages ou de lieux partenaires aux quatre coins du monde?
En fait, nous, on travaille, du coup, avec des associations qui sont sur place. Donc, par exemple, là, actuellement, on propose un voyage au Maroc. Et donc, on est en partenariat avec une association qui s'appelle Oumouma. Et ce sont des femmes, par exemple, qui ont perdu leur mari, qui sont seules à s'occuper de leurs enfants, etc., et qui sont en difficulté. Et on va essayer de les aider, en fait, à monter un projet pour avoir une activité économique en plus. Et de leur apporter des voyageurs, parce que c'est ça aussi qui leur permet de vivre, qui peut leur permettre de vivre l'année, quoi.
Et comment vous faites pour vous faire connaître du public, puisque vous avez une démarche assez particulière? Là, tout ce que vous nous expliquez, c'est quand même quelque chose de spécifique. Donc, pour que le public ait à l'oreille tout ce que vous faites, comment vous vous y prenez?
Alors, on peut participer à des salons, par exemple, pour se faire connaître. Et en fait, ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. On a uniquement des bénévoles dans l'association. Et donc, tous, on en parle autour de nous. Et après, on a quand même un site internet. On n'a pas d'agence physique, mais. Enfin, d'agence. On n'a pas.
physique, oui, d'accord.
Voilà, on n'accueille pas du public dans nos locaux. Mais du coup, on a un site internet avec toutes les destinations qu'on propose. Et après, en fait, on est ouvert aux envies, en fait, des personnes qui nous contactent. On n'est pas arrêté sur nos destinations ou sur nos programmes de voyage.
Et Eric, excuse-moi.
Oui, si je peux rajouter, on est associé quand même aux foyers ruraux, donc on a une représentation nationale. Et à partir de ces organismes, on a un bureau, en fait, qui nous permet d'avoir quand même un lien physique avec les gens. Et donc le fait d'avoir cette résonance nationale, ça nous permet quand même de se faire connaître un peu plus facilement. Voilà, on essaye de développer aussi la communication sur les réseaux sociaux. Et puis on cherche surtout maintenant à faire des voyages bien plus individualisés, bien plus à la carte. Depuis le Covid, on ne cherche plus à faire des voyages de groupe organisés, structurés, avec beaucoup de bilan carbone plutôt négatif. Donc on essaye de compenser le voyage en avion par justement véritablement une immersion des gens à l'intérieur d'un village, d'une situation très spécifique, qui va permettre à partir de là d'avoir un lien avec la population qui n'a plus rien à voir avec le voyage. On circule, on fait coucou, salut les enfants, tout ça. Mais là, on rentre dans le quotidien des gens, dans leurs difficultés de vie et leur réalité de vie. Et à partir de là, les gens, s'ils veulent découvrir le pays, on les aide à organiser une démarche qui va leur permettre d'aller voir le volcan, la baie, le truc carte postale. Mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est véritablement de donner du sens à son voyage et de participer à une évolution réelle, locale, et surtout que la communauté puisse continuer à se développer.
Et comment est-ce que vous trouvez vos destinations ? Est-ce que vous vous déplacez, vous partez en voyage 6 mois, vous rencontrez du monde et vous essayez de créer des partenariats avec des villageois ?
Alors je pense que déjà il faut rendre hommage à Jean-Claude Audigier qui a fait lui pendant déjà plus de 30 ans un grand parcours à travers le monde, à découvrir des endroits, des projets, des choses comme ça. C'est lui qui a mis en place un certain nombre de séjours pour pouvoir découvrir ces espaces-là. Et puis aujourd'hui, suite à tous ces passages dans les endroits, on a gardé des contacts dans chacun des pays qui nous permet d'avoir sur place toujours un représentant qui permet de suivre l'évolution du projet. Ce qui fait que, contrairement à beaucoup de structures qui vendent du voyage solidaire, on ne fait pas du coup par coup. On est véritablement inscrit depuis plus de 25 ou 30 ans. Je crois que ça fait 30 ans maintenant que Départ, ou 20 ans que Départ existe. Tous les projets solidaires qu'on a lancés continuent pour la plupart. Et en tous les cas, ceux qui se sont arrêtés, c'est parce qu'on est arrivé à une autonomie suffisante pour que ça s'arrête. En plus, on est associé, on fait du microcrédit. Donc on a lancé dans plein d'endroits des processus de microcrédit, ça va des bouflons, d'une vache, d'une chèvre, des petits supports très simples pour créer de l'activité individuelle, des choses comme ça. Et ce processus des microcrédits est fantastique parce que c'est le processus de responsabiliser les gens dans une communauté. Quand on fait un microcrédit à quelqu'un, même si c'est 100 euros, sa responsabilité de rembourser ces 100 euros, c'est ce qui va donner la crédibilité au projet. Et si jamais il ne rembourse pas, c'est la communauté qui va le juger, en fait.
Ok.
Et alors, vous avez dit que vous aviez des bénévoles, beaucoup de bénévoles. Comment on fait si on veut vous rejoindre et participer à l'aventure ?
Et donc, vous pouvez nous contacter. Ça ne fonctionne plus le... Ah si, ok. Oui, on disait qu'on fonctionnait avec des bénévoles, mais on n'en a pas tant que ça. Et du coup, justement, on est en recherche. Donc,
appel lancé.
Oui.
Appel à bénévoles.
Donc, oui, après, vous pouvez du coup nous contacter sur le site internet de l'association Départ. Ou alors, est-ce que je communique l'adresse mail maintenant ? Alors, du coup, l'adresse mail, c'est Asso Départ. Donc, Asso Départ, donc DEPARTS@gmail.com. Donc, s'il vous plaît. Rejoignez-nous.
assodepart@gmail.com. On rappelle que vous êtes du coup sur le site de la Joyeuse Escale, sur le côté de la place où se trouve aussi le studio de radio. Ils sont là, juste là. Voilà. Ceux qui nous écouteront sur fréquence 7 à 20h, on vous invite à nous rejoindre à Joyeuse. Ça dure jusqu'à dimanche, n'hésitez pas. Merci Dina, merci Eric. C'est assez court comme entretien, mais on a du monde et du pain sur la planche.
Oui. Merci à vous.
Merci.
Et à très bientôt, on continue du coup doucement cette émission. Voilà, tendez l'oreille en direct de la Joyeuse Escale, une collaboration entre la web radio Allô la Planète et Fréquence 7, votre radio locale. Allô la Planète, donc, qui organise tous les ans ce merveilleux événement, cette merveilleuse rencontre des voyageuses, des voyageurs des quatre coins du globe et même d'ailleurs. Restez avec nous, on continue cette émission avec nos nouveaux invités. Ils sont trois. À eux trois, ils sont moins vieux que toi. Voilà, je vous présente Lulu, Nono et Lily. Même Lily, Nono et Lulu.
Non,
oui, de toute façon, personne ne nous voit. Les gens nous entendent. Salut, vous c'est nous vrai. Entendez, vous ?
Oui, c'est bon.
Alors du coup, vous êtes tous les trois. Je vous ai croisés là depuis que je suis là, depuis hier. On vous voit passer avec une enregistreuse, les casques sur les oreilles, un micro avec une moumoute pour lutter contre les intempéries. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une radio?
Oui, du coup, on a une radio qui s'appelle La Réverbe, voilà, qui a été créée du coup au service jeunesse de Joyeuse, voilà, juste à côté d'ici. Du coup, c'est une radio podcast, donc on n'a pas de, on n'est pas en continu, on fait juste des podcasts de temps en temps, voilà.
Vous pouvez nous trouver d'ailleurs sur le site du Ricochet, dans l'onglet jeunesse.
Donc ça, c'est pour vous écouter.
Voilà, c'est ça.
On retrouve tous vos podcasts. Ça fait combien de temps que vous pratiquez là, la radio les uns les autres?
Alors, oui,
ça fait quasiment un an qu'on pratique. Ça va faire bientôt un an que la radio podcast a été créée. Et donc, aujourd'hui, on est venu pour interviewer les bénévoles qui sont ici.
Et qu'est-ce que vous leur demandez alors?
On leur demande très bien des questions sur leur rôle de bénévole en tant que tel, mais aussi sur le voyage qu'ils ont pratiqué ou qu'ils souhaitent pratiquer.
Est-ce qu'ils sont accueillants?
Oui, 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 franchement, la plupart, ils nous ont bien accueillis. Ils ont répondu des réponses assez développées même. Et puis, ils étaient vraiment très sympas.
Et est-ce que vous auriez une anecdote un peu rigolote à partager aux auditeurs? Parce que bon, on se doute que vous en passez des aventures et des rencontres. Il y a peut-être quelqu'un en particulier qui vous a marqué ou une situation aujourd'hui qui a eu lieu et qui mérite d'être racontée. Allez-y.
Du coup, avec Nono, on a fait du tandem pour la première fois. Voilà. Lui, il a l'habitude de faire du vélo, mais moi, ça faisait à peu près 2 ans que j'en avais pas fait. Voilà. Du coup, au début, c'était un peu laborieux, on a bien rigolé. Mais après, on est allé plus vite, on a pris nos aises et ça s'est fait. On a bien rigolé.
Et Lily, t'as rencontré quelqu'un? Une histoire?
Pour moi, c'est pas vraiment drôle, mais en fait, on est allé du coup se balader sur le festival. Et j'ai rencontré un auteur, notamment. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est cette notion qu'il voulait voyager pour s'oublier lui-même et oublier les gens, la société qui l'entourait. Et c'était vraiment cela, son but. Et en fait, c'était le fait de voyager pour s'effacer du monde.
Et toi, ça t'évoque rien? Toi, c'est pas ton objectif de voyage? Tu vois pas ça comme ça?
Moi, si je voudrais voyager, c'est surtout pour découvrir une autre culture et pour m'imprégner en fait d'une différence.
Ah, c'est beau ça. Et tu voyages?
J'ai voyagé en Grèce là récemment durant le mois de février, mars. Mais après, non, j'ai fait le Maroc, mais pas plus que ça.
Et toi?
Moi, j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai surtout voyagé avec les sorties scolaires que j'avais. Donc, j'ai été à Londres. Et surtout en France, où j'ai beaucoup voyagé, où je suis allé vers Nantes, je suis allé vers Lyon, je suis allé aussi vers Toulouse et Marseille pour des sorties scolaires. Je suis allé aussi en Allemagne et en Suisse avec mes parents, donc j'ai un petit peu voyagé en Europe. Mais...
C'est déjà pas mal hein, quand même.
Oui, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. Des fois, la rue d'à côté est plus exotique que 5000 km plus loin. Hein. Ça vous a donné des envies de voyage, là? Vous avez collecté les récits de plein de gens depuis 2 jours. Vous allez continuer jusqu'à samedi?
Oui, c'est ça. Du coup, on va récolter des interviews jusqu'à samedi, voilà, pour avoir une émission jusqu'au dimanche, du coup, dimanche, c'est la fin du festival.
Et on est diffusé tous les jours. On est diffusé tous les jours à partir de 10h sur Allô la Planète.
Sur le site internet, du coup, de Allô la Planète. Il est écrit derrière nous, allolaplanète.fr. Salut Steph, t'étais pas loin. Et coucou. Et du coup, donc les podcasts sont là tous les jours à partir de 10h sur le site d'Allô la Planète. Et on les retrouve aussi sur votre site à vous, sur le site du Ricochet, la Réverbe.
Voilà, c'est ça.
Et vous êtes seulement tous les trois alors à la Réverbe?
Oui, c'est ça, on est seulement trois. Et on cherche aussi, on essaie d'intégrer d'autres personnes à notre groupe.
Ouais, des fois il y a des petits qui viennent... Essayer, bon, ils n'ont pas tout à fait notre niveau, mais du coup, on essaye de les former pour que, du coup, après nous, quand on est majeur, on ne pourra plus venir, je crois. Si, non, quand on sera plus grand, qu'on aura nos études, on n'aura plus forcément envie de venir, et du coup, on essaye de former des jeunes pour perpétuer, cette radio.
Dis donc, vous pensez déjà à la relève?
Oui.
Ça, c'est généreux, hein. Merci.
Et donc ça veut dire que tous les ados du pays de Baume-Droby, les ados du pays de Baume-Droby sont invités à l'accueil, vous êtes invités à vous faire connaître auprès du centre social du Ricochet, si la radio vous tente, vous intrigue, si vous avez des choses à raconter ou juste l'envie de tendre l'oreille aux histoires des autres. Je crois que c'est une belle vocation, enfin moi en tout cas j'aime bien. Vous avez quel âge les uns les autres, Lily?
Alors Noah et moi on a 17 ans et Lucas part sur ses 15 ans.
D'accord, donc c'est ça, à eux trois, ils sont moins âgés que toi. merci les copains, vous voulez nous rajouter quelque chose avant de passer à la suite?
Non, pas forcément.
Bon, vive le voyage, merci la joyeuse escale. Merci d'être passé avec nous dans cette émission. On se retrouve tout à l'heure. Vous restez là un peu à la fin de journée?
Oui.
Vous avez fini de bosser là?
Ouais,
c'est ça. Wow. Ok. Et bien à la prochaine.
Au revoir.
Merci
au revoir.
D'être venu.
À la prochaine fois.
Au revoir.
Et est-ce que Victoria, tu veux rajouter quelque chose sur ce super travail que tu fais avec tous les ados?
Moi je peux dire que je suis animatrice au service jeunesse et je peux dire que je suis très fière de mes jeunes. Ils ont démarré. On a été formés il y a un an par la web radio Allo la planète et petit à petit ils se sont formés. Ils ont choisi des sujets. Ils ont monté deux émissions actuellement et voilà. Maintenant ils sont autonomes. Je leur laisse le matériel et je passe juste derrière pour vérifier si tout va bien ou pour juste aider parfois. Et donc voilà, moi tout ce que j'en ressors, c'est une grande fierté et je pense qu'ils ont fait de belles rencontres. Ces trois jeunes qui ne se connaissaient pas de base et ils se sont vraiment rencontrés sur ce projet-là. Et aujourd'hui, ils sont, cul et chemise, quoi.
Ben oui, c'est les castors juniors, Lulu, Nono et Lily. Excuse-moi, Lily, Nono et Lulu. Voilà, ordre d'apparition à l'écran. N'hésitez pas à aller leur parler, vous qui êtes sur le site du festival. Profitez-en, vous avez de la chance. Merci Victoria. On continue tranquillement cette émission. Moi, je vous propose d'aborder la suite doucement. C'est Hélène, du coup, qui est capteuse de son professionnelle, lilloise de naissance. Nous invite à un voyage au cœur de ce festival, puisque elle est vraiment partie se promener à la rencontre des gens. Tu veux nous raconter un petit peu avant qu'on lance ton émission?
Allez, pourquoi pas, le concept alors. Donc la sonothèque, l'idée c'est de recueillir les voix des festivaliers, capter les sons d'ambiance de la joyeuse escale et puis permettre les rencontres, permettre surtout aux auditeurs de vivre avec nous le festival, écouter leurs avis, écouter leurs coups de cœur. Donc c'est ouvert à tous, tous les jours. Et donc c'est ce qu'on va écouter maintenant.
La sonothèque de la joyeuse escale avec Hélène Courtel. Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 mai, Allo la planète et Fréquence 7 vous invitent à partager les aventures des festivaliers.
Première matinée du festival, je vous propose comme promis de se retrouver pour écouter chaque jour les festivaliers. Et aujourd'hui, nos premiers invités sont Essodom et Aurore. Bonjour.
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 Mais dis donc, ça envoie, quel dynamisme dès le matin. Est-ce que c'est l'effet de la joyeuse escale numéro 2, Essodom?
Eh bien, joyeux, ça tient bien son nom, on est joyeux, on est en forme, il y a tous les bénévoles, ça s'anime. Et que la fête commence, quoi.
Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire le fonctionnement, ce qu'il y a autour de nous et comment ça se passe?
Alors déjà, hier soir, on a fait la cérémonie d'ouverture avec notre premier film qui a été Vertige, qui a été vraiment hyper inspirant. Et la bonne surprise, c'est qu'on a eu une partie des gens du documentaire qui étaient là et qui ont pu nous livrer leurs impressions en direct. Et c'était très, très émouvant, très touchant.
On rencontre Thomas qui venait faire un pique-nique et qui m'a dit qu'il connaissait déjà Allo la planète. Alors bonjour Thomas, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Effectivement, là, à l'occasion d'un week-end en Ardèche, je me suis arrêté à Joyeuse un peu au hasard. Et j'étais agréablement surpris de découvrir des panneaux Allo la planète qui m'ont ramené 10 ans en arrière quand j'écoutais Eric Lange sur France Inter à l'époque.
J'ai changé de lieu, je suis à l'atelier Mandala. Il y a des enfants autour de la table, mais aussi des adultes.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu jusqu'à présent et puis comment vous êtes arrivé sur le lieu du festival?
D'accord. Ben, moi, en fait, j'habite Joyeuse. Je suis habitant d'ici et j'ai appris le festival un peu par les affiches qu'il y avait dans le, coin. Et on a décidé aujourd'hui de venir faire un tour pour voir un peu les ateliers qu'il y avait sur le festival et peut-être faire des séances de films dans le week-end.
D'accord. Et donc là, on commence par une activité créative.
Oui, je suis venu avec ma fille donc pour cette activité mandala. C'est quelque chose qui lui plaisait bien, qu'elle avait envie de découvrir. Donc on est venu ici un peu directement.
En fait, je participe en tant que bénévole. Où, on est une équipe de trois. Et on a été missionné par Allo à la planète pour interroger les bénévoles.
Et comment ça se passe, cette première matinée de prospection auprès des bénévoles ?
Alors nous, personnellement, ça fait déjà depuis hier qu'on y est et ça se passe plutôt bien. Ils sont plutôt partants pour nous répondre, même si parfois, comme on est un peu débutant, on peine à trouver nos mots et à savoir un peu relancer les discussions.
Bah là, tu trouves très bien tes mots en tout cas. Je suis désormais avec Lucille et Frédéric qui viennent juste d'arriver sur le festival et qui sont d'Annecy. Alors racontez-nous un peu ce qui vous attire par ici.
Les représentations ont l'air vraiment intéressantes. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de tout voir, mais on va essayer d'en voir un maximum.
Est-ce que vous-même, vous êtes voyageur ?
Alors oui, pas très grand voyageur non plus, mais... On fait des petits voyages en vélo, en kayak aussi.
Et quelle a été votre dernière destination ?
Alors, on a descendu la Dordogne en kayak pendant 9 jours. C'était l'été dernier.
Et quoi d'autre, monsieur ?
Le dernier voyage à vélo, c'était un tour d'un massif dans les Alpes avec des étudiants étrangers. Tour des Bauges à vélo, voilà, c'est très international parce qu'on le fait avec des gens qui viennent du monde entier.
Est-ce que ça fait longtemps que vous avez décidé comme ça de vous mettre sur le voyage ? Est-ce que c'est une habitude père-fille ? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Ouais, alors moi je suis tombé dans le voyage à vélo quand j'avais 17 ans. En fait, avec des amis de Chambéry, on avait décidé de partir jusque dans le Massif central à vélo en 3 jours.
Vous avez choisi de venir d'Annecy pour le festival Allô la planète. Est-ce que c'est une web radio que vous connaissez déjà ? Comment vous avez pris connaissance du festival ?
On a entendu parler du festival parce que on connaît un des bénévoles sur le festival. Et voilà, et en fait, on avait regardé le programme et ça avait l'air super sympa. Et donc, on est content de découvrir la radio aussi.
Et vous, monsieur, vous attendez certains films ou vous allez là un peu au fil de l'eau et de la découverte ? Qu'est-ce que vous avez vu dans le programme ?
Alors, on a réservé trois films pour l'instant. Un film sur les Pyrénées, traverser des Pyrénées avec un bébé. Et puis les sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle qui nous intéressent beaucoup aussi. Et ensuite, Lucille est très intéressée par les adolescents qui ont fait un voyage en Islande, je crois. Voilà, après il y a quelque chose sur le canoë justement en Alaska et au Canada.
Je vois que vous êtes bien informé du programme, que vous avez pris vos billets au préalable. On est à côté de deux passionnés qui ont prévu leur programme, ça fait plaisir. Merci.
Au revoir, merci.
C'était la Sonothèque de la Joyeuse Escale 2023, une rencontre avec le public du festival imaginé par la web radio Allô la planète.
Merci Hélène pour cette réalisation du jour.
Mais de rien, premier essai, première édition, est-ce que ça vous a plu ?
Ah, moi j'ai adoré, ouais. c'est cool d'aller à la rencontre des gens parce qu'en fait on dit les voyageuses, les voyageurs qui font vivre le voyage et qui font vivre le festival, mais en fait c'est le public avant tout quoi.
Ah bah c'est ça, oui, c'est aussi très agréable d'aller les rencontrer, de tendre le micro, de comprendre un peu pourquoi ils sont là, où ils sont arrivés par hasard. Il y a vraiment plein d'histoires à découvrir, c'est passionnant.
Et toi du coup, t'es capteuse de son, tu me disais t'es animatrice radio à Lille.
Oui, alors animatrice radio, j'aime beaucoup créer des podcasts, jouer avec le son, faire de la couture, parce que c'est un peu de la dentelle hein, d'associer comme ça les voix, les ambiances, c'est ce qui me plaît beaucoup.
Ok, et du coup, tu continues tes petits micro-trottoirs demain et après-demain ?
Ah oui, je continue. Évidemment, je continue d'aller rencontrer le public et puis de le partager avec les auditeurs.
Alors, c'est diffusé sur allolaplanète.fr, en plus de cette émission, c'est ça ? On les trouve.
Oui, on les trouvera sur Allo la Planète. Et puis, évidemment, le soir, donc fréquence 7. Et de manière générale, de toute façon, on est très attentif sur Allô la Planète à toujours interroger le public et à rester très en lien avec les auditeurs.
Super, merci Hélène, tu restes avec moi pour continuer à animer ce plateau.
On continue.
Alors on continue tout doucement. Moi je vous propose de continuer avec une histoire que j'ai collectée ce matin. Le feu de camp est bien lancé, on est installé les pieds et le cœur au chaud, au sec ou presque. Moi je vous propose d'écouter l'histoire d'Elisa. Elisa, je l'ai rencontrée par un heureux hasard ce matin, alors qu'elle arrive tout juste en Ardèche, au guidon d'une petite bécane aux allures de grande sportive, une petite 125 toute légère. Elle descend du territoire de Belfort, c'est un peu le bout du monde, à sa manière. Mais pour notre feu de camp, c'est un autre récit qu'elle m'a confié. Elle m'a raconté un voyage, son grand voyage, en Asie en général, et au Népal en particulier.
C'est une longue histoire, mais du coup... Pour essayer de faire court, j'ai tout plaqué il y a 2 ans environ, après un traumatisme crânien où j'ai vraiment failli y passer et où le médecin m'a dit textuellement « Maintenant, il va falloir profiter de votre vie parce que vous avez beaucoup de chance d'en être escapé. » Et en fait, ça m'a réveillée au sens propre et j'ai commencé à vivre vraiment ma vie à partir de ce moment-là. Quoi. On dit souvent que la vraie vie commence quand on s'aperçoit que chaque instant est précieux. Quoi. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai pris une année sabbatique de mon travail. J'étais chef de projet informatique et je suis partie en Asie avec l'intention de faire un voyage à la fois extérieur, entre guillemets, dans le sens où j'avais envie de bouger, de me déplacer d'un pays à l'autre, mais aussi un voyage intérieur. Surtout un voyage intérieur d'ailleurs, parce que j'étais à une époque où j'avais beaucoup besoin de retour sur moi-même et je me sentais vraiment perdue. Donc voilà, j'avais besoin de ça. Et je me suis dit, le Népal, c'est un pays qui allie à la fois ce côté voyage intérieur, spiritualité, etc. Et en même temps, où il y a des paysages magnifiques, la nature, et je me suis dit, je vais vraiment pouvoir me retrouver là-bas. Et donc c'est comme ça que je suis partie là-bas. Une fois là-bas, j'ai fait du bénévolat pendant un mois et demi dans un monastère bouddhiste. Et puis, j'ai rencontré des voyageurs qui m'ont parlé du Haut Mustang, et qui est en fait un ancien royaume indépendant, et qui est à la frontière en fait, de la Chine et du Tibet, et qui est très reculé, qui est très désertique. Et j'ai entendu quelqu'un dire qu'on pouvait faire de la moto là-bas, même s'il fallait obligatoirement être accompagné d'un guide. Et c'est devenu un rêve. Ça ne fait pas très longtemps que je fais de la moto. Et je me suis dit, s'il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de faire en plus du trek, c'est ça. C'est de tenter l'aventure à moto, pour expérimenter ces sensations d'espace, de liberté. Voilà le contexte.
Expérimenter la sensation d'espace et de liberté au guidon de sa bécane. Elle m'a lu au micro le récit de ses deux jeux de
séjour. Les kilomètres passent et les montagnes sont plus éblouissantes à chaque virage. J'observe le vent, les coiffés et les décoiffés de leurs nuages. Elles me paraissent différentes à chaque heure. On passe plusieurs ponts suspendus à moto. Je m'y habitue, mais c'est toujours le grand frisson de traverser un pont vertigineux qui vibre et qui oscille au passage simultané de nos deux motos. Quand bien même elles ont l'air solides, construites en acier, les planches disjointes laissent entrevoir la rivière glaciaire qui coule à flots en dessous. Ma moto est devenue le prolongement de mon corps. Je ressens une liberté incroyable. Dans les bosses, je me lève et je m'envole avec elle. Dans les pentes, je m'accroche pour escalader les énormes rochers. Je navigue à l'aveugle avec elle, en traversant des rivières dont je ne connais pas la profondeur, en accélérant pour ne pas être emportée par le courant. L'aventure. Nous restons un moment devant le lac Titi, lac sauvage encerclé des montagnes du Daolagiri d'un côté et des Annapurna de l'autre. Je voudrais rester des heures ici, j'adore cet endroit. Mon guide sort un réchaud de son sac et fait un thé noir masala avec l'eau du lac. Un régal. On mange ensuite à l'été, à côté d'une petite fille qui me dévisage, d'un jeune chiot tout fou qui ne pense qu'à jouer et d'une carcasse de mouton en train de sécher au soleil pour faire des soukouti, viande séchée mangée ici, plus facile à conserver. On approche de Marfa, la terre est rouge, les paysages ont changé. Nous sommes dans une profonde vallée balayée par des vents arides. Nous sommes entrés dans la région du Lower Mustang. Le temps s'est arrêté ici. Les villages ne semblent pas avoir changé en 300 ans. Je finis la journée à Marfa, village blanc accroché à la vallée, majoritairement peuplé de Tibétains. Je médite sur le toit en terre battue de ma guest house. Je regarde le jour se coucher. Mon panorama est encadré par quelques montagnes, une tête de yak accrochée sur un toit comme un totem et un vieux monastère bouddhiste.
Au Népal, Elisa a vécu cette ivresse unique, c'est celle de la présence au monde, pure et simple.
C'est vraiment ça pour moi, la moto, c'est une sorte de méditation en mouvement, quoi. Parce que surtout dans ce genre de de paysages où on est hors piste, où il faut faire attention à chaque pierre, chaque portion de route. Enfin, vraiment, il y a tellement de présence en fait sur le moment qu'on peut pas, on peut pas penser le mental. Il est soit dans le passé, soit dans le futur. Et en fait, on peut pas être ni dans le passé ni dans le futur quand on conduit sur des routes comme ça. Et j'ai fait ça justement après être sortie d'un Vipassana, donc une retraite silencieuse de 10 jours, où on méditait 8 heures par jour. Et en fait, j'ai vraiment trouvé que c'était une sorte de prolongement de ça, mais en mouvement. Et ça m'a appris à être consciente de mon corps sur la moto dans l'instant et de ressentir une liberté assez incroyable, quoi. De me sentir vraiment en connexion avec les éléments et avec moi-même.
Et puis, comme dans tout voyage digne de ce nom, il y a eu des difficultés.
Alors du coup, je voulais vous partager le jour 4, qui est donc de loin la journée la plus aventurière de ma vie. Je pense qu'on peut dire ça au jour d'aujourd'hui, après, qui sait ce que nous réserve demain. Sur l'itinéraire, du coup, Kajemini, Garagompa, Lomantang. Réveillée dès l'aube, je ne tiens plus en place. Aujourd'hui, nous allons enfin pénétrer dans la région mystérieuse et sauvage du Haut Mustang. Je trouve mon impatience en allant méditer sur le toit de ma guest house et je regarde le soleil se lever sur la vallée. Je rejoins mes deux nouveaux guides, oui, le précédent a eu le mal des montagnes, et les trois personnes du groupe avec qui nous partons pour le Upper Mustang. Après avoir checké nos permis pour rentrer dans cet ancien royaume longtemps interdit et aujourd'hui accessible uniquement avec un guide, nous prenons la route à Nul Mustang. Cette région principalement habitée de réfugiés tibétains est fortement marquée par le bouddhisme. Sur la route, plusieurs temples bouddhistes creusés dans la roche. Une tibétaine aux joues rouges et aux yeux rieurs vient nous ouvrir la serrure de la porte de l'un d'eux. On accède à l'intérieur au prix d'une escalade. Gardien des trésors d'un autre temps, ce temple est très ancien et renferme des statues et des peintures d'un autre siècle. Nous continuons notre route et je suis un peu plus ébahie à chaque virage par les paysages dantesques, les montagnes et les canyons aux coloris ocre, jaune, bleu, gris. À un embranchement, un membre du groupe convainc les guides de ne pas prendre le chemin le plus direct jusqu'à Lomantang, mais de passer par un détour d'une heure, ou deux, qui sait, on est au Népal, pour passer par Garagompa. Ce passionné de l'histoire bouddhiste tient absolument à voir ce temple, qui est le premier temple fondateur de la religion bouddhiste tibétaine. J'insiste aussi, ça a l'air incroyable. Les guides cèdent, on prend donc l'option longue. La route est très, très, très difficile. Du sable dans lequel les motos patinent, des pierres énormes à monter, des éboulements à éviter, des rivières à gogo. On tombe, on est couvert de poussière, on se relève en riant. Oh, mon Dieu, ça vaut le coup. On atteint un canyon multicolore, on se croirait en Arizona. En mieux. Il se prolonge et devient les gorges les plus profondes du monde, rien de moins, situées entre deux sommets à plus de 8000 mètres d'altitude et creusées de manière très impressionnante. La nature est incroyable. Je me sens minuscule dans ce décor et tellement heureuse d'avoir la chance de voir ça. La beauté des paysages compense largement la difficulté de la route. Les choses se compliquent. Après plus de 2 heures de route à rouler dans ce détour, à l'approche de Garagompa, une immense plaque de neige nous barre la route. Et merde, je fais vite le calcul. La nuit se couche dans 2 heures, alors que le prochain village, si on passe cette épaisse plaque de neige, n'est même pas à 1 heure. Impossible de faire demi-tour, on ne sera pas arrivé à temps. Je propose le tout pour le tout. On peut toujours piétiner la neige pour essayer d'en faire une route et pousser chaque moto à pied, à 4. Ah, j'oubliais. On est quand même à 4100 mètres de hauteur et on n'a plus de souffle. Pam qui vit dans ce désert de montagne rouge pour nous aider. On s'y met. Et en 1 heure, on réussit à piétiner suffisamment la neige et à pousser les 4 motos. On n'a cru jamais y arriver. Épuisé, on ébauche quelques pas de danse. We are fucking alive. On l'a fait, c'est tout ce qui importe. Dans ce paysage désert, sans réseau téléphonique, avec peu d'oxygène dû à l'altitude, la nuit tombe et les températures négatives. On est simplement heureux d'être vivant. Nous arrivons enfin au monastère de Garagompa, objet du dangereux détour. L'extérieur est très endommagé par le tremblement de terre de 2015. Un chien endormi nous accueille, il n'y a personne. En faisant le tour, on trouve un gardien qui nous en ouvre les portes. Le monastère ne vit plus, seule une offrande a lieu tous les ans en présence d'un grand moine qui se déplace pour l'occasion. On se déchausse et les merveilles de peintures aux couleurs encore vibrantes, sculptures, livres et tibétains s'offrent à nous. C'est magique. Nous ressortons au jour qui décline et Lomantang est visible au loin. Le gardien nous dit que c'est à 1 heure de route, c'est sans compter sur l'état des routes et notre fatigue. S'ensuit une course contre la nuit qui monte pour atteindre Lomantang, ville fortifiée qui ferme ses portes au coucher du soleil. On finit de conduire dans la nuit noire, Une partie du groupe se laisse distancier et échappe de justesse à des chiens sauvages. Dans la tête de peloton, j'atteins enfin le village, finalement les portes fortifiées restaient ouvertes, et on fonce dans la première maison demander de l'aide pour nos amis. Un villageois part avec sa vieille moto chinoise rafistolée pour les chercher et les guider. Ils s'étaient perdus dans le dernier kilomètre, victimes de plusieurs problèmes avec leur moto. Waouh! Quand enfin tout le monde se retrouve autour du feu de la cuisine de cette guest house rudimentaire, sans eau courante et évidemment sans chauffage, cette histoire paraît tellement rocambolesque qu'on est un peu sonné. On a roulé toute la journée, sans manger à midi. On va se coucher. Quelle journée incroyable! D'une intensité. Elle restera toujours gravée en moi.
Et face à l'adversité et à l'imprévu, le corps et l'esprit doivent faire preuve d'agilité et de calme.
Bah, je crois que quand on est face à une difficulté, en fait, il y a... Enfin, là, pour le coup, c'était noir ou blanc, quoi. Il y avait deux façons de réagir. Soit on faisait marche arrière, on prenait l'option la plus safe et on faisait demi-tour, on essayait de trouver des gens pour nous aider, etc. Voilà, on se rembarrait un petit peu dans nos retranchements. Soit on apprend à dépasser ses limites et on y va et on fonce, en fait. Et on mesure le risque quand même parce qu'on ne veut pas y passer. Mais d'un autre côté, c'est l'aventure, quoi. On ne fait pas ça tous les jours. Et du coup, à ma grande surprise, alors j'étais la seule femme du groupe, j'ai été celle qui a amorcé l'idée de dire « Mais attendez, c'est possible, on peut y arriver si on s'y met tous. Donc allons-y, essayons au moins, et puis on verra. De toute façon, là, on est dedans, quoi. » Et donc, et c'est comme ça que j'ai abordé mon voyage de manière générale. Parce que je crois que si on ne dépasse pas ses limites à un moment donné, on n'évolue pas beaucoup, en fait. Et pour moi, c'est ce que j'ai retenu de ce voyage, surtout. Et même dans cette façon de faire de la moto aussi, j'avais jamais fait de la moto dans ce genre de dénivelé, paysage, etc. C'était extrêmement technique, mais je suis sortie de mes limites, ça m'a fait beaucoup évoluer, quoi. Ça m'a appris plein de choses sur moi-même. Et ça aussi, du coup.
Nos prochains invités, qui se sont désistés, ils avaient sorti cette phrase. C'était « Notre corps est composé d'eau et quand l'eau ne bouge pas, elle croupit ».
J'ai voyagé pendant un an dans trois pays différents. Et en fait, c'était un peu un voyage physique, mais surtout un voyage intérieur qui m'a fait beaucoup évoluer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'a fait évoluer, c'est aller au-delà de mes limites. Mais en fait, il y a plusieurs manières pour aller au-delà de ses limites. Et c'est vrai qu'on me dit toujours « Ah, mais attends, t'es voyageuse, t'es motarde, t'as tout quitté, comment t'as fait là en deux ans, t'as changé complètement de vie ?» Et il y a des gens que ça impressionne. Et en fait, je disais, mais il y a deux ans, moi, on m'aurait dit que je faisais ça, j'aurais ri parce que c'était impossible. Je me voyais pas faire ça. Je me voyais pas partir toute seule. Je me voyais pas trekker. Je me voyais pas faire de la moto. J'avais même pas le permis moto il y a deux ans. Et en fait, ce que j'ai dit à ces personnes, c'est souvent, on se rend pas compte qu'on vit un peu attaché à ses peurs. Et quand on essaie de mettre une lumière dessus et de se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on a envie de faire au fond ou qui nous titillent mais qu'on n'ose pas à cause de la peur, le but c'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais déjà d'avoir cette prise de conscience et en fait après de prendre des tout petits pas pour aller au-delà de cette peur. Moi, avant de partir à l'autre bout du monde, j'ai déjà fait... j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé un vol pas cher pour la Croatie. Donc, c'est quand même pas très loin. J'ai payé 50 balles mon aller-retour. Je me suis dit, ça sera un bon test pour partir seule, parce que je ne l'ai jamais fait. Et puis, après, je me suis sentie un peu plus en confiance. Ensuite, j'ai fait toute l'Andalousie toute seule. Je me suis dit, c'est pas mal. Bon, je me sens bien toute seule quand je voyage. Ça va le faire, sans rien prévoir. Alors qu'avant, j'étais quelqu'un d'hyper organisé et d'hyper prévoyante, etc. Donc là, j'ai réussi à lâcher un peu ça. Donc, c'était un bon test, mais c'était un premier petit pas, ce qui m'a permis après de partir plus loin et de partir seule. Donc, j'avais juste envie de partager ça pour dire on n'est pas obligé de toujours prendre un virage à 180 pour faire ce qu'on a envie de faire. Et on peut commencer par des petits pas. Et voilà, c'était juste ce que j'avais envie de faire passer comme un message.
Et c'était le témoignage recueilli ce matin d'Elisa Porchi, qui a tout plaqué pour sortir de sa zone de confort et entrer dans sa zone de kiff.
Et toi, Quentin, il me semble que tu es aussi un voyageur, mais alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de tes voyages? Comment voyages-tu? Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte?
Moi, ça m'émeut, des témoignages comme ça. C'est la base, c'est inscrit dans tout mon être. J'ai pris la route à 17 ans et je ne l'ai pas quittée depuis. Malgré cette halte ardéchoise qui se prolonge, ça fait un peu plus de deux ans que je suis là. Mais je pense qu'elle a raison, on a un devoir un peu de repousser nos limites, de faire abstraction de nos peurs, et des fois c'est la peur d'une langue qu'on connaît pas, d'une culture inconnue. Je pense que la peur, c'est le terreau de la haine. Voilà.
Ah, dis donc, et donc pour toi, c'est le voyage principalement qui permet de dépasser ses limites. Enfin, tu es aussi sur cette idée-là que l'outil principal pour se surpasser, c'est le voyage.
Bah, l'outil, c'est le voyage. Après, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas obligé de voyager très loin. Des fois, l'aventure est vraiment au coin de la rue. Et il suffit juste de garder l'œil ouvert et une certaine disponibilité. On rencontre des gens qui nous offrent des tranches d'eux-mêmes. On rencontre des situations qui nous confrontent à des tranches de nous-mêmes.
Oui, aussi. Hein. Puis c'est plus une façon d'être. Parce que finalement, en faisant de la radio, on rencontre des gens. Bon, ben, c'est comme un voyage. Donc c'est plus lié à la confrontation avec l'autre.
Ouais, la confrontation ou faire ensemble.
Ou au contraire, la coalition, parce que confrontation, c'est peut-être un mot un peu guerrier, là.
Ben, je suis ravie de ce voyage partagé sur les ondes avec toi, Hélène.
Oh, mais moi aussi.
On continue en musique avant de recevoir nos derniers invités, les Bicyclards.
Rame canote la rame, t'es mon bras, jusqu'à dans l'autre bord. Rame canote la rame, t'es mon bras, m'y verront tout port. Belle lame la mer, y bat si mon flanc, m'y connaît mon coq et les légers. Bon Dieu, moi la paix assis, m'y coule au fond. Et façon comment pour arriver. Rame canot la rame, t'es mon bras, jusqu'à dans l'autre bord. Rame canot la rame, t'es mon bras, m'y verront tout fort. Râle caillola, râle, t'es mille, râle à l'icoural. Râle caillola, râle, t'es mille, nous valait la cale. Si c'est même pas godet, puis qu'on a plein, veille côté ton pâte va poser. T'as trop courage et peut-être un peu plus loin. Tu fais façon comment vous arriver. Râle caillola, râle, t'es mille. Râle à l'écourage. Râle caillola, râle, t'es mille. Nous valait la canne.
Alain Peters sur les ondes de Fréquence 7 en direct de la Joyeuse Escale. Je me suis permis ce petit morceau musical parce que c'est mon hymne, c'est un réunionnais, c'est beau, c'est dense. Tipa Tipa n'arrivé, le titre, parce que petit pas, on arrive où on veut. Petit pas ou petit coup de pédale à coup de pédale. On parlait du voyage de proximité, on parlait du voyage lent. Et on est avec deux grands acteurs du voyage lent, pédale gauche, pédale droite, roue avant, roue arrière. Coucou.
Bonjour.
Bonjour.
3-4.
Bonjour.
Enchanté.
Ça va les gars, vous êtes les Bicyclards. Présentez-vous l'un l'autre.
Alors enchanté, moi c'est Rémi.
Comment t'appelles-tu Rémi?
Ouais. Je m'appelle Rémi. ça fait l'aventure Bicyclard, ça fait 2 ans. Que dire de plus?
L'aventure Bicyclard, ça fait 2 ans. Qu'est-ce que c'est l'aventure Bicyclard? Alors, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, Bicyclar, c'est un atelier de réparation qui fait de la qui répare votre vélo, qui vous apprend à réparer votre vélo, qui est une recyclerie du vélo, donc qui récupère votre vélo, qui le remet en état, qui lui permet de reprendre la route.
Donc ça s'adresse à tous les cyclistes du coin ?
À monsieur et madame tout le monde d'Ardèche, oui. Bonjour, moi c'est Antoine.
Bonjour d'ailleurs. Antoine.
Bonjour. Oui, ça s'adresse à tous les utilisateurs de vélo quotidien qui ont envie d'aller travailler à vélo, qui ont envie de se balader le week-end sur nos routes cyclables ardéchoises et qui ont envie aussi peut-être de voyager à vélo.
Donc ça prend la forme d'un atelier physique, c'est-à-dire que vous avez un local en Sud-Ardèche où on peut venir réparer ouvertement son vélo. On n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit.
Tout à fait, on a un local qui est basé à Vauguet. Vauguet-Gare, depuis 2 ans. Et on est présent aussi, on essaye d'être présent sur des ateliers mobiles, donc ici aujourd'hui à Joyeuse, avec quelques averses qui ont animé la journée. Et voilà, d'autres occasions, on essaye d'aller chercher aussi d'autres territoires.
Et pourquoi ça vous tient tant à cœur de demander au public de réparer lui-même son vélo, en fait, de donner les possibilités de le réparer, parce que on pourrait dire ah bah tenez, voilà mon vélo.
Alors simplement parce que déjà ça nous fait plaisir de transmettre notre savoir, et ensuite c'est toujours une bonne réussite de savoir qu'une personne peut et est capable de réparer son vélo. Et en fait un cycliste, pour qu'il fasse du vélo, il faut qu'il sache réparer son vélo. C'est-à-dire que quand il a envie de prendre son vélo pour faire sa petite sortie, pour aller sortir en famille, ou même pour aller au boulot, ou même pour préparer son voyage en vélo, eh bien, quand il est capable de le faire, il le fait, il le prend, et ce n'est pas une contrainte pour lui. Il n'y a pas de charge en fait, mentale en disant « Oh, faut que je répare mon vélo, faut que je trouve un réparateur ». Donc l'autonomie, c'est l'accès au vélo.
Donc c'est à partir de ce constat-là que vous avez lancé finalement le concept, ou c'est autre chose ?
C'est aussi, si je puis me permettre, sur la partie recyclable et recyclage de notre association. C'est-à-dire que nous, on a fait aussi un constat qui est qu'il y a énormément de vélos qui se retrouvent en déchetterie ou qui sont abandonnés dans des jardins et des caves obscures. Et le gros atout de l'asso, c'est que on remet en selle les gens, mais aussi les vélos qui sont un peu oubliés. Et ça évite d'acheter du neuf, de consommer toujours plus. Et donc ça, c'est aussi un gros moteur de l'association, quoi.
Oui, il y a avant tout ce côté éthique, donc ce côté recyclé et réparé.
Oui, tout à fait. On a même au début eu le temps de penser à détourner les petites parties des vélos qui étaient inutilisables pour un cycliste.
Pour faire des œuvres d'art ou
pour essayer de faire des œuvres d'art.
Ah oui, ça m'étonne pas, oui.
Voilà, mais il y a énormément de vélos qui traînent dans les caves ardéchoises, et donc on a beaucoup moins de temps pour détourner les objets maintenant. Mm. Mais ça reste dans nos objectifs, ouais.
Et du coup, en Sud-Ardèche, vous avez une des plus grosses et riches banques de pièces détachées de vélos.
Alors on a une belle. On a une belle banque de pièces détachées à prix libre, okay. Donc qui va du vélo des années 50 jusqu'à nos vélos modernes en fait actuels. Donc c'est mieux d'aller dans une recyclerie de vélo plutôt que d'aller sur Google chercher sa pièce.
Oui, c'est vrai. Du coup on peut s'adresser au Bicyclar à Vauguet. On vient sur vos heures d'ouverture, les gens prennent une adhésion, ça se passe comment ? Après, ils viennent avec leur modèle de vélo, leurs besoins. Vous avez la banque à prix libre, vous avez les conseils techniques.
Oui, il y a beaucoup de conseils. Quand la personne arrive avec son vélo, il y a d'abord une étape de conseil, oui, tout à fait, sur qu'est-ce qu'on va faire avec ce vélo, qu'est-ce qui manque comme pièce, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'il faut changer. Et après, comment ça se passe ? On invite assez facilement la personne à venir apprendre avec nous. Pour faire l'entretien, et après on peut se servir dans le stock de pièces, c'est basé sur beaucoup de prix libres, Après, on a laissé la possibilité aux gens qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de se serrer les mains avec nous, de nous poser le vélo et on leur répare nous-mêmes le vélo. Ils peuvent le récupérer plus tard.
Ah non, hein, ça on ne veut pas. On a dit qu'on développait les capacités des gens, hors de question.
Chacun a son emploi du temps personnel et on comprend tout à fait, même si ce n'est pas forcément notre priorité, mais on s'adapte.
Bon, d'accord. La bienveillance en plus comme valeur positive. J'accepte.
Là, vous avez organisé un peu des événements. Moi, j'ai vu Rémi, moi, je te connais comme le spécialiste et presque champion de course de lenteur.
Ah, la course de lenteur. Alors, la course de lenteur, c'est un principe simple. C'est le... Donc, c'est une course où il faut être le plus lent possible. Et donc, c'est le dernier arrivé qui a gagné. Alors, en général, ça se passe sur des runs... de 8 personnes, quoi qu'on a déjà organisé la plus grande course de lenteur où il y avait 30 personnes au départ, c'était pour notre anniversaire, là, c'était génial. Et donc, alors le principe, c'est de ne pas poser le pied par terre, d'avancer le plus lentement possible, de toujours tourner les pédales, on a le droit de faire un peu de coude à coude avec son voisin, et en plus, on est déguisé, interdit d'être dopé aux Xanax, aux trucs un peu qui nous font ralentir. Et cette course de lenteur, elle est aussi animée, elle est théâtralisée par nos soins. Donc ça change tout le temps, en fait. C'est un vrai jeu. C'est aussi pour faire comprendre aux familles, aux personnes, à tout le monde, qu'on n'a pas besoin d'aller vite et loin en vélo pour s'éclater. On peut faire, y a plein de jeux autour du vélo. Et on a même lancé le combat de joutes. Enfin, les joutes en vélo avec des sticks en mousse de piscine, des chaussures de ski, des casques. On a fait ça pour notre anniversaire et on s'est super éclaté. À côté de ça, il y a plein d'autres animations qui peuvent venir. Hein, le chamboule-tout à vélo, encore quoi d'autre.
Ouais, on avait un concept obscur aussi. On avait un concept, quand on avait créé l'assaut, de faire de la pétanque à vélo. Ça ne s'est pas encore fait, mais c'est dans un placard et on n'est pas à l'abri que ça sorte... un jour.
Attends, l'idée de la pétanque à vélo, c'est quoi ? C'est tu roules avec ta boule dans la main, bah et quand tu arrives à une ligne, tu lances ?
Le concept s'est à peu près arrêté là, on n'a pas poussé plus loin la réflexion, mais voilà, après si t'es partant, on peut très bien penser plus loin, faire un test, pourquoi pas.
Bon ben voilà, on va refermer cette émission sur toutes ces bonnes idées, parce qu'apparemment vous avez des idées plein la tête, il y a beaucoup de perspectives.
Ouais. Oui, bien sûr, hein, on a des idées, on n'en manque pas en fait. On peut tout faire à vélo en fait.
Vous deux, vous êtes voyageurs à vélo ? L'un, l'autre, vous avez...
Moi, j'ai pas trop eu l'occasion de voyager à vélo. Je faisais même pas beaucoup de vélo avant de faire partie de l'assaut. Mais je m'y mets avec plaisir et voilà, je viens en vélo au travail, etc.
Alors pour ma part, j'ai un peu voyagé en vélo, j'ai notamment fait une traversée de l'Europe en tandem, une traversée de l'Australie en vélo, et en fait, c'est, je pense, dans les capacités de chacun, il s'agit d'être un peu, d'être positif, quoi, enfin... Et puis voilà, quoi, il y a des étapes de 20 km et puis d'autres de 70, d'autres de 120. Ça va dépendre du vent, ça va dépendre de son humeur. Mais il y a, voilà, c'est une belle expérience le voyage à vélo.
C'est chacun son rythme. Merci les gars, on arrive vers la fin de cette émission. Je rappelle que l'atelier des bicyclards est sur le festival de la Joyeuse Escale aujourd'hui. Il vous reste encore une petite heure pour aller les rencontrer sur site avant qu'ils s'en aillent. Sinon, vous les retrouverez à Vauguet-Gare, juste à côté de la Voie Verte, l'atelier des bicyclards. C'est du mercredi au samedi, 14h, 18h.
Parfait. C'est parfait, c'est ça. Merci Quentin.
Ça, c'est de la groupie. Merci les gars.
Merci beaucoup.
Merci Quentin.
À bientôt. Merci beaucoup Hélène pour cette co-animation.
Avec plaisir.
C'était un plaisir. Merci Plex pour la régie.
Merci Plex.
On vous rappelle que cette émission se fait en direct du Festival de la Joyeuse Escale, encore demain vendredi, après-demain samedi, une émission qui met à l'honneur les voyageuses, les voyageurs, les gens qui font vivre le festival, qui font vivre l'aventure. On se retrouve très bientôt sur les ondes de Fréquence 7. N'oubliez pas allolaplanète.fr pour retrouver cette émission les podcasts réalisés par Hélène, les podcasts réalisés par les ados de la Réverb qu'on a interviewé tout à l'heure. Sur ce, il y a un tandem des bicyclards qui nous tend les pédales. Moi, je te propose qu'on parte en virée.
Allez, on y va, c'est parti.
Retour au Rafio, Moussaillon, cap vers de nouvelles aventures. C'était le feu de camp d'Allo la planète, présenté par Fréquence 7.